La lave-vaisselle de Joe.
Un gros, gros lave-vaisselle.
Jonathan Poulin. Poulin, 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 Poulin.
Avec Joe Poulin, on lave pas la vaisselle à la main.
Ah, bien en personne, Joe!
Salut!
Comment ça va?
Salut!
Bonjour!
Que de souvenirs! Salut!
Cordialement!
Salut, Paul!
Des fois, on s'ennuie de lui. Il faisait des bonnes interventions, c'est sûr. Ah ouais, donc, Éric Kerr, la tête première, toi! Tasse-toi! Ah ouais, rentre dans le lave-vaisselle! Puis c'est un lave-vaisselle commercial, Dieu sait.
Tasser les petites fourchettes, les petites cuillères.
On tasse le rack à ustensiles! Et on le rend de la tête, la première. Ah ouais, donc, ferme-moi ça et mets un extra-cycle, l'eau très chaude.
Éric Kerr annonce ce matin, faut mettre les drapeaux en berne, écoutez, il annonce ce matin qu'il ne se représentera pas aux prochaines élections. Écoutez, autant j'essaie là, dans la vie d'avoir du respect pour les gens qui font le choix de faire du service public, tu sais, c'est quand même, c'est des gens qui donnent du temps pour servir leurs soins, lui, je suis pas capable. Je suis pas capable de me rendre là. C'est d'une médiocrité politique, cet homme-là. Je pense qu'il incarne à lui tout ce qu'il y a de plus détestable en politique, ce qui fait en sorte que les gens sont cyniques. Mais ça fait quand même 19 ans qu'il est élu député de la Pelletrie. Pour un député, c'est quand même une longévité impressionnante. Mais c'est surtout que, pour moi, Éric Kerr, il a eu comme deux carrières. Il a eu sa carrière dans l'opposition où c'était un des meilleurs. C'était un des meilleurs dans l'opposition. C'était quelqu'un qui dénonçait le système, qui dénonçait les abus, qui dénonçait les gaspillages. Écoutez, c'était le premier, et c'est pour ça que par la suite, ça devient ironique. C'était un des premiers à tirer sur le gaspillage, notamment des projets informatiques, à faire les suivis puis à talonner le gouvernement. Moi, je me souviens, en plus, souvenez-vous, là, quand on ressort un peu des archives, à un moment donné, il était dans l'opposition puis il réclamait des démissions, dont une certaine Dominique Savoie, à une époque hein, qui était une haute
Il l'avait traité de nouille et depuis ce temps-là, c'est une survivor dans le régime.
Exact. Non, il l'avait traité de telle façon en chambre qu'il n'aurait pas pu la traiter de la même façon non, dans ça, les corridors parce qu'il aurait été poursuivi.
C'est moi, lui, là. Elle doit pas être si mauvaise que ça. Elle est recyclée à gauche et à droite pour des gros jobs. C'est capoté. Elle est devenue, à un moment donné, même la grande patronne des fonctionnaires. Comment tu l'appelles? Secrétaire général?
Oui, secrétaire général. Puis après ça, elle est devenue quasiment la pompière en chef. Là.
Ben oui.
Quand ça allait mal dans un organisme public, on l'a
nommée par le gouvernement d'Éric Kerr.
Tout à fait. Alors, ça démontre un peu l'hypocrisie de la chose. Souvenez-vous, c'est le gars qui avait présenté un projet de loi pour qu'on puisse révoquer un politicien en cours de mandat qui n'a pas respecté ses engagements. C'est lui qui a présenté ce projet de loi-là. Le recall, exactement ce qu'on appelle en anglais. Puis
il aurait dû être recallé lui-même parce qu'il a brisé ses promesses une fois par un autre avec le troisième lien.
Oui, puis tu sais, c'était pas ambigu, là. C'est « je mets mon siège en jeu jusqu'à la dernière goutte ». Alors que tu sais, quand je dis là, ce qu'il y a de plus méprisable en politique... C'est bon débarras, le fait qu'il s'en aille, mais moi, je suis juste déçu. J'aurais aimé ça que les électeurs de son comté puissent le sanctionner. C'est ce que je trouve le plus dommage là-dedans. Puis en plus, certains plaideront à la coïncidence, mais il annonce ça ce matin, puis il a fait couler ça quelques heures après le fait que les conservateurs ont annoncé que ce serait Maïté Blanchet-Vézina qui allait se présenter dans la Pelletrie.
Une coïncidence. C'est sauve en courant.
Puis en plus, encore une fois...
En plus, là, il y a une pension.
Pauvre, mais qu'est-ce qu'il va aller faire d'autre?
Il va avoir une... Il est confirmé pensionné, là. À l'âge requis, là, tout à fait. Il ne sera pas pensionné l'an prochain.
Non, puis est-ce que j'ai besoin de rappeler que c'est aussi le gars qui avait accepté un prêt de 50 000 $ du maire de la plus grosse ville de sa circonscription? Yeah. Tu sais, quelqu'un qui s'est fait ses choux gras au niveau de l'éthique, mais qu'il n'y en avait pas beaucoup pour lui. C'est pour ça que je dis, c'est un politicien tellement méprisable dans la façon dont il s'est comporté.
Durant la pandémie, il avait dit « Je reconnais plus Radio X ». Non, c'est Radio X.
Qui reconnaît plus.
Parce que lui, il était évidemment dans le CAC show, dans un gouvernement qui voulait nous faire mourir. Et jamais il s'est levé pour défendre la liberté d'expression. Alors, c'est quelqu'un de centre-droit, quand même, un ancien adéquiste, un parti au sein duquel tu as déjà évolué, mon cher Dan Gravel.
QS nous a plus défendu que lui, oui. C'est tout dire. Puis c'est pas comme si QS nous avait défendu. Hein. Mais ils l'ont quand même. Il y a certaines personnes aux membres au sein de cette formation politique-là qui nous ont plus défendu que lui, alors que il a créé un des plus grands malaises de l'histoire de Radio X en étant chroniqueur et député en même temps.
Je savais pas ça.
Ouais, c'était malaisant, ça.
C'était un très mauvais souvenir que je raconte, Dan Gravel.
Les gens ont voulu l'oublier, c'était traumatisant. Ah,
j'aimerais l'oublier.
Mais écoute, puis au moins, il y a le fait que la CAQ se revendique d'avoir de l'ADN de l'ADQ puis des restants de l'ADQ. Ben là, au moins, les derniers des Mohicans, là, il va rester François Bonnardel qui s'est un peu déshonoré.
Donc, il va rester de l'ADN dans la chambre d'hôtel.
Alors, il restera...
C'est un peu ça. Non, mais c'est un peu ça, pareil. Hein. Il reste Bonnardel. Hein? L'ADQ est passé où? Ben, il reste un restant de Bonnardel. Dan, garde-moi ça au microscope pour voir si vraiment il y a de l'ADN là-dedans.
Ou au micro-ondes, si tu veux qu'il soit chaud, le faire vivre un peu.
Sinon, course à la direction de la CAQ. Écoute, on est encore dans des excellentes bonnes idées. Vous avez vu ce matin Christine Fréchette qui propose, imaginez-vous, de développer des salles d'attente virtuelles pour les gens qui vont attendre. Tu sais, quand je parle tantôt là, de médiocrité politique puis de gens qui ont pris les gens un peu pour des colombes, des valises.
MetaQuest, les casques, j'adore.
Non, mais...
Tu te mets ça sur la tête. Hein? C'est flambant neuf. Un hôpital, flambant neuf, tu sais, de MetaQuest. J'adore
avec
les casques.
Avec la réalité 3D.
La réalité 3D. Ben oui, mais c'est une salle d'attente virtuelle. Moi, je la prends.
Ça va être propre dans la réalité 3D.
Il va y avoir même quelqu'un qui joue du violoncelle. Peut-être quelqu'un qui chante.
Oui. La musique québécoise.
Moran.
La musique québécoise.
Moran va être là. Ça fait 15 ans qu'elle cherche une job.
Moran, Sophia nu-pied. Elle joue nu-pied en passant.
Écoute,
en pleine salle d'attente. C'est virtuel. On a le droit.
Non, mais.
On a le droit. Même des animaux. Tu peux racheter des affaires au pays de Fréchette. Mais quand c'est Minnie Mouse, elle a le droit. Elle a accès à un florilège.
Non, mais tu dirais. Elle est au gouvernement, cette personne-là, là, puis elle sort des affaires comme ça. Puis tu sais, dans sa proposition, c'est de dire « Ah, mais les gens qui n'ont pas nécessairement besoin d'être à l'urgence, donc des gens qui n'ont pas nécessairement besoin d'avoir une supervision médicale ou d'être... Ben, qu'est-ce qu'ils font à l'urgence? C'est ça le point. C'est encore un constat d'échec de la première ligne, des GMF, puis de l'accès à des services médicaux. Ces gens-là ne devraient pas être à l'urgence. » Puis souvenez-vous, tu sais, on oublie, là, mais moi, j'aime quand même ça le rappeler à l'approche des élections. Ça fait pas, des décennies, là. François Paradis, l'ancien député de Lévis.
Bonjour, mesdames, messieurs. Oui, mesdames, messieurs, je vous regarde actuellement. Je suis président de l'Assemblée.
Ben écoute, on sait pas ça. Je suis debout. Tu sais, la présidente qui est cernée jusqu'au genou.
Je suis debout.
Je suis...
mais je m'assois...
90 minutes, sa promesse. Sa promesse, c'était des attentes aux urgences de 90 minutes, là. Puis lui, il était porte-parole en santé de la CAQ à l'époque, là. C'était avant le grand retour de Christian Dubé. Puis souvenez-vous, ils l'ont tassé, lui, pour faire de la place à
S'il vous plaît.
Oh, man!
S'il vous plaît.
S'il vous plaît. S'il vous plaît.
Lui ou Nathalie Roy, je sais pas quel.
Ah, Nathalie Roy.
Nathalie Roy est abattable.
Quelque chose.
En termes de lave-vaisselle, c'est toi qui vide la lave-vaisselle.
Nathalie Roy, ça a l'air d'un personnage dans une émission pour enfants, là.
Mais à maison, Dan, tu vides la lave-vaisselle, là.
Je suis pas certain.
Non. Si t'oses ne pas vider la lave-vaisselle, t'en manges une maudite.
Je suis debout.
Oui, je suis debout.
Avant à côté de toi, elle va dire « Je suis debout ».
Ben, c'est ça. Profite-en faire la vaisselle, moi, je suis assis.
Hey, je veux...
Dan a parlé de Joran et non Moran. Quelqu'un qui dit « Moran est décédé ». I know.
Non,
mais on n'a pas parlé de Moran.
C'est Joran.
Donc, dans une conversation qui n'a jamais existé.
Oui, c'est vrai. T'as raison,
elle est
c'est
décédée.
Joran, son nom.
C'est Joran.
Ouais.
Conversation alternative.
Conversation alternative. Dans le monde de Fréchette.
Je m'excuse de t'avoir troublé.
Réalité alternative. Ouais.
Regardez, on mettra du Safia Nolin. Je veux vous amener sur la loi 21 des contestations en Cour suprême. Parce que moi, écoute, peut-être que des formations comme juriste, j'ai quand même suivi ça attentivement parce que leur décision risque d'avoir quand même un impact sur la capacité des gouvernements là, d'adopter des lois avec des clauses de dérogation. Première chose que je note, c'est probablement une des décisions les plus importantes des dernières décennies. Puis malheureusement, on a juste 7 sur 9 juges qui vont se prononcer là-dessus. Donc déjà là, on a un panel un petit peu plus réduit. Puis moi, j'en suis pas revenu cette semaine de voir les représentations des procureurs de la FIA, premièrement, qui payaient avec les cotisations syndicales
full woke.
Des gens. Là. Souvenez-vous, la gang qui avait même pas de fonds de grève quand ils demandaient aux profs de faire du piquetage. Mais on est rendu qu'on fait des arguments en Cour suprême basés sur le fait de... Ben imaginez-vous si au Canada, on avait un Trump, un mini-Trump.
Ben oui.
J'en suis pas
revenu. Maître Bérard.
Il y a au moins... ben moi, je pense que Frédéric Bérard, il l'a échappé là-dessus, puis il s'est fait reprendre par... Le juge de Terre-Neuve, le juge Rowe, qui dit, écoute, là, est-ce que c'est rendu qu'au Canada, notre critère d'interprétation, c'est de prendre en considération qui c'est qui est président des États-Unis, de la Russie ou du Parti communiste chinois, tu sais. Alors, il y a ça.
Il s'est fait remettre à sa place par un ouf.
Il s'est fait remettre à sa place, mais je dois dire que c'est imprévisible ce qui va sortir de là, parce que moi, j'ai suivi les travaux. Tu vois que... Tu vois qu'il y a deux juges qui sont essentiellement...
Ça transparaît, les juges?
Oui. Puis tu sais, il y en a des fois qui vont dire « Ah, oh, mais hey, c'est pas impartial. » Non, quand t'arrives en cours pour plaider, là, le juge n'y apprend pas. Là. Le juge a tout lu, il s'est fait une idée, puis les plaidoiries servent au juge à finaliser son idée, là, à vraiment venir creuser. Fait,
c'est super intéressant ce que tu dis.
Fait, normalement,
donc, les dés sont quasiment pipés, mon cher Joe, mesure où...
Non, ils ne sont pas pipés, c'est que les plaidoiries arrivent en fin de processus.
OK. Mais les juges se sont fait une tête
sur
la validité non seulement de la loi, mais de l'usage de la clause nonobstant, parce que c'est de ça dont il s'agit. Là.
Normalement, quand tu arrives sur le banc, là, quand le juge arrive sur le banc, là, dans 90% des cas, leur idée est faite.
C'est bon.
Puis c'est pas que la justice n'est pas correcte. Ils ont lu les décisions, ils ont lu les mémoires, ils sont préparés. Alors, à moins vraiment là, que tu apportes un élément en plaidoirie qui les fasse là, virer bord.
Ou un témoin surprise.
Puis là, en plus, dans des tribunaux supérieurs, il n'y a pas de témoin. Alors, tu sais, c'est facile comme ça. Alors, il y a deux juges qui sont, à mon avis, très clairement à l'encontre là, de la position de la FIA d'intervenir. Malheureusement, je dirais par expérience, ces deux juges qui sont souvent dissidents. Ils sont souvent en minorité dans les décisions qui sont rendues. Puis à venir jusqu'à maintenant, à 3 jours d'audience, il y a au moins 3 juges sur 7 qui ont fait absolument aucun commentaire, aucune intervention.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Ben c'est difficile de savoir de quel côté ils se logent. Malheureusement, je remarque, et ça reviendra peut-être sur le bilinguisme, mais je remarque que quand les causes sont plaidées en français devant la Cour suprême, souvent, il y a des juges anglophones qui n'interviennent pas ou ne commentent pas. Alors, est-ce que ça a un impact sur le débat? On ne le sait pas. Mais vraiment, ça va être une boîte à surprise, cette décision-là. C'est très difficile de prévoir qu'est-ce qui va se passer.
As-tu déjà plaidé devant la Cour suprême?
La Cour suprême, non. J'ai plaidé devant les tribunaux.
Mais ça se peut que ça arrive. Ça se peut que ça arrive, dépendant de la cause. Mais évidemment, là, tu fais plus du corporatif. Au sein d'une corporation,
c'est plus rare,
exactement.
C'est plus rare. Donc, à suivre, parce que les impacts vont être assez constants.
Très, très bon. Merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
Tu retournes dans la tourmente, puis il y a pas mal de trafic aussi.
Dans la métropole.
Tu t'en vas dans la métropole?
Beauceron.
Ah, OK, parfait. Très bon. OK, et on va à la pause, et en revenant. Salut. Salut.